le journal des auditeurs avec Nadir Djennad sur Africa numéro 1.
Africa.
Bienvenue dans votre émission Le Journal des Auditeurs. La parole est à vous pendant 30 minutes sur la radio africaine. Aujourd'hui, mercredi 13 avril 2016, nous parlons économie mais aussi politique avec ce constat dressé par la Banque mondiale. L'Afrique subsaharienne continue d'être durement frappée par la chute des cours des matières premières et devrait connaître cette année une croissance deux fois plus faible que pendant les années 2000. Alors quelles peuvent être les conséquences économiques et politiques pour les pays concernés? Nous en parlerons avec Yves Ekwe-Amezo, économiste, directeur du groupe de réflexion Afrocentricity. Aujourd'hui dans le JDA, ce constat dressé par la Banque mondiale. Dans une étude rendue publique en début de semaine, l'Afrique subsaharienne continue, selon la Banque mondiale, d'être durement frappée par la chute des cours des matières premières et devrait connaître cette année une croissance deux fois plus faible que pendant les années 2000. Selon la Banque mondiale, la chute des cours des matières premières est la principale raison de cette contre-performance. Outre les pays producteurs de pétrole qui ont perdu une grande part de leurs sources de revenus, la Banque mondiale cite également la sécheresse qui a affecté la production hydroélectrique et les récoltes de maïs, notamment en Afrique australe. Pour Makhtar Diop, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique, les gouvernements devront redoubler d'efforts pour mobiliser davantage leurs ressources nationales. Afin d'y voir un peu plus clair sur l'étude de la Banque mondiale, nous avons en ligne un spécialiste, Yves Ekwe-Amezo, économiste, directeur du groupe de réflexion Afrocentricity. Bonjour.
Comment allez-vous ?
Très bien, merci. Merci beaucoup de répondre à nos questions. Alors tout d'abord, quels sont selon vous les pays concernés par cette panne de croissance ? Et faut-il s'alarmer de ce constat dressé par la Banque mondiale ?
Alors la question posée comme ça, je pourrais vous dire les pays, mais je préfère d'abord remettre ça dans un cadre plus global. Il y a tout simplement une détérioration globale. Et dans cette détérioration globale, il faut savoir que c'est l'Asie et l'Afrique qui soutient la croissance mondiale, contrairement à ce qui se dit. Les pays qui ne soutiennent pas la croissance mondiale sont les pays européens, occidentaux, industrialisés. Il faut que ce soit clair. Il ne faut pas mystifier les gens. C'est l'Asie et l'Afrique.
D'accord.
Maintenant, à l'intérieur, il est vrai que l'Afrique subsaharienne, par exemple, est passée de 6% en 2008 à autour de 3%, pratiquement de moitié aujourd'hui 2015. Donc il y a un vrai problème de gouvernance en interne. Et ça, on va l'expliquer. Quels sont les pays ? Mais écoutez, on peut vous en faire toute une liste. Et ce serait plutôt le contraire que vous devriez demander. Quels sont les pays qui ne sont pas subis ? Alors, rapidement...
Mais justement, c'était prévu, j'allais vous poser cette question aussi.
Alors, la Libye, moins 6%, Botswana, moins 3%, Burundi, par exemple, moins 4%, Guinée équatoriale, ce qui est étonnant, moins 12%, Sierra Leone, avec tous les problèmes de maladie, moins 21%, le Sud-Soudan, il y a la guerre, et tous les autres, en gros, 2-3 points qui ont largement perdu. Pour ceux qui ont gagné, là, il faut quand même féliciter des pays comme la Tanzanie, 7%, le Sénégal, 6,5%, la Mozambique, 6,3%, le Mali, qui est en train de bouger, 6,1%, l'Éthiopie, 10%, faut le reconnaître, République démocratique du Congo, malgré la guerre, 7% et demi, la Côte d'Ivoire, 8,6%. Donc voilà, il y a des efforts qui se font, mais encore, est-ce que c'est stable tout ceci ?
Alors, pour Makhtar Diop, qui est vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique, les gouvernements devront redoubler d'efforts pour mobiliser davantage leurs ressources nationale. Quel type de réforme les pays concernés devraient engager, selon vous ?
Ben écoutez, d'abord, monsieur Makhtar Diop, c'est très gentil, mais il faudrait peut-être qu'il pose le problème à la Banque mondiale, parce que la plupart de ces réformes africaines ont été conseillées par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Et donc, on constate que ces réformes ont donné ces résultats-là. Donc, la Banque mondiale et le FMI devraient d'abord se poser la question, et monsieur Makhtar Diop avec. Maintenant, sur les réformes, il faudrait peut-être regarder les pays qui ont réussi. Prenez la Chine, prenez l'Asie en général. Il faudrait voir quelles sont ces politiques de gouvernance qu'ils ont menées, qui ont mené à faire sortir des populations de la pauvreté, à donner des emplois. Les gens faisaient du riz. Aujourd'hui, ils sont dans des usines. Il y a encore des problèmes, mais ça va beaucoup mieux. Donc, on n'a pas réussi cela. Et troisième problème, plutôt que de parler de réforme, moi, je préfère qu'on parle de culture. Il y a un vrai problème de culture africaine. Cette culture africaine est la culture de la facilité qui donne la corruption. On ne peut pas continuer à ne pas transformer les matières premières africaines. On ne peut pas continuer à avoir du café cacao qui n'est pas transformé. On ne peut pas le faire pour le cuivre, le cobalt et j'en passe, et des meilleurs. Ce n'est pas normal d'abord en termes de conception économique et c'est même une aberration. Mmh. Et c'est là-bas qu'on peut créer les transformations, développer les chaînes de valeur, les emplois, notamment pour les jeunes et les femmes qui sont mis de côté. Et beaucoup plus grave, les inégalités, parce que personne ne veut en parler. Mais c'est une chose d'avoir la croissance. Mais si c'est inégal, si 2 ou 3% de la population dans nos pays africains gagnent tout et ne refuse de le redistribuer, vous voyez bien qu'il y a un problème. Donc la redistribution, il ne s'agit pas de jouer à l'esclavage, passer du blanc au noir. Il s'agit de créer des emplois pérennes, décentes, qui permettent à la population digne de pouvoir gagner leur argent et de pouvoir organiser leur vie. C'est ça qu'il s'agit. Santé, éducation, et j'en passe, et des meilleurs. Et qu'est-ce que font la plupart des pays africains, notamment les dirigeants africains, pris collectivement, bien sûr. Il y a un gros problème. Soit ils refusent de le faire, soit ils s'alignent sur les politiques qui n'ont pas fonctionné justement dans les pays occidentaux, on va y revenir, et troisièmement, beaucoup plus grave, ils n'y comprennent rien. Beaucoup sont incompétents, il faut le dire aussi tout haut.
Restez avec nous, Yves Ekwe Ameizo, je rappelle que vous êtes économiste, directeur du groupe de réflexion Afrocentricity, nous avons en ligne Diatta. Bonjour Diatta.
Bonjour monsieur, c'est juste pour dire à votre invité concernant le Sénégal.
Oui.
Si on nous dit que le pays est en développement, c'est-à-dire que la croissance augmente, mais ça ne se voit pas sur la population, et que la population continue à souffrir. Normalement, si on dit de croissance, ça doit se voir immédiatement. La population, ça manque de travail, et que les gens, ils n'arrivent même pas à trouver du boulot. Donc, on nous parle de cette croissance. Mais quelle croissance qu'on nous parle?
Vous dites que la croissance est bonne au Sénégal, mais ça ne se ressent pas au sein de la population.
Ça ne se voit pas du tout. De jour en jour, ça empire la situation. Je vois qu'il fait de la pub sur RFI en disant que le Sénégal, c'est un pays de développement. Mais quelle croissance qu'on nous parle? Il faut qu'on arrête. Il faut que les gens arrêtent à nous dire quelle croissance qu'ils nous parlent.
Merci Diatta pour votre intervention. Nous revenons avec Yves Ekwe Ameizo. Vous avez entendu l'intervention de Diatta concernant la croissance qui se donne au Sénégal, mais les ne se font pas ressentir au sein de la population.
Monsieur Diatta a parfaitement raison. Écoutez, quand on parle de croissance, il s'agit de mesurer une vitesse. Quand une voiture ou un train roule à 100 ou 200 km à l'heure, ça ne veut pas dire que les passagers qui sont dedans, ils mangent bien ou mal. Ça ne veut pas dire non plus que les passagers qui sont dedans courent à 100 ou 200 km à l'heure. Ce ne sont que des indicateurs. Donc c'est absolument normal, puisque ces indicateurs indiquent qu'une création de richesse se fait, mais n'indiquent pas que c'est bien distribué. C'est dont parle notre interlocuteur. Il a entièrement raison. C'est ce que je critique d'ailleurs. Nous avons une croissance, mais nous ne redistribuons pas, y compris au Sénégal d'ailleurs. Et donc les 6,5% que je parle pour le Sénégal actuellement, c'est récent, c'est cette année, 2015. Mais écoutez, un peu plus bas, c'était pas tout à fait ça le taux. Donc il a entièrement raison. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas mesurer. Il faut absolument mesurer. Mais il faut chercher d'autres critères pour savoir pourquoi cette population n'a pas d'emploi, n'arrive pas à obtenir ses emplois, et quels sont les choix qui ont été faits au Sénégal ou ailleurs pour aller mettre l'argent que le Sénégal a gagné à un certain moment et ne l'a pas investi justement dans les transformations. Mais attention, il faut venir aussi nous, les populations. Pourquoi un Sénégalais ou la plupart des Sénégalais continuent à manger du riz qu'ils importent toujours d'ailleurs? Pourquoi ils vont toujours chercher aussi le pétrole d'ailleurs? On doit pouvoir trouver des sources d'énergie différentes, on doit pouvoir manger autre chose, manger local, manger la tchèque ou manger des choses locales sont beaucoup plus intéressantes que de prendre du riz qui vient d'ailleurs et qu'il faut travailler les gens dans des pays externes à l'Afrique. Parce que c'est aussi ça qu'il s'agit. Et quand vous allez voir en détail, pour que le prendre le cas du Sénégal, qui sont ceux qui contrôlent le commerce de ce riz, il faut aussi demander si ceux-là, ils distribuent bien cet argent-là. Parce que très très souvent, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des communautés intégrées entre eux qui s'arrangent et qui justement refusent, quand il y a des corruptions, de les sanctionner au tribunal. Donc on pourrait aller dans le détail. Mais vous savez, les responsabilités sont partagées.
Alors la Banque mondiale évoque aussi dans son constat les tensions politiques dans certains pays et les menaces terroristes. Cela affaiblit réellement les économies africaines.
Ben oui, absolument. Alors ça, on passe dans la deuxième partie. Maintenant, on a constaté qu'il y a des gros problèmes. Le FMI, on a beau le critiquer, mais il nous donne quand même des données. Cette fois-ci, ces données sont plutôt très conservatrices. Si vous prenez les données de l'Union africaine ou bien de la Banque africaine de développement ou d'autres institutions africaines, c'est toujours plus ou moins assez positif, et tout ça pour finalement défendre les États, alors que ce n'est pas la réalité de ce qui se passe. Là, qu'est-ce qu'a fait le FMI? Le FMI a essayé de mettre tous les risques possibles, en passant par tout ce qui est l'insécurité, les problèmes que nous avons avec les Boko Haram et autres, les problèmes tout simplement que nous sommes incapables de mettre en place la santé, l'éducation qui retiennent les populations localement, d'où les migrations, entre autres, les problèmes des vérités des urnes qui ne sont pas respectées dans les pays, donc du coup, les gens votent, mais ce n'est pas les gens qui sont au pouvoir qui finalement sont ceux qu'ils souhaitent, et du coup, ceux-là font des politiques contre les populations. Donc, tous ces éléments, et j'en pourrais en citer beaucoup plus, sont intégrés. Mais il y a un autre problème de fond, et je vais insister sur l'incompétence, parce que c'est un gros problème de diriger des pays africains aujourd'hui vers des des orientations en nous annonçant de l'émergence alors que nous sommes incapables d'y arriver en prenant la façon dont nous nous organisons. Il faut pouvoir transformer nos matières premières localement. Regardez tout ce qui se passe. Prenez un petit déjeuner à Paris, sur la table, la moitié de ce que vous mangez vient de l'Afrique. Allez en Afrique, au petit déjeuner, souvent il n'y a rien du tout. Et si vous trouvez quelque chose, alors ça vient d'Europe. Ce n'est pas normal. Il faut modifier cela. Ce n'est pas des réformes, c'est un problème culturel de l'Africain. Il doit cesser d'aller mettre les femmes, cesser de mettre ce que vous mettez sur la tête qui vient toujours d'ailleurs. Souvent des gens qui sont morts ou des gens on a coupé les cheveux en Inde et que vous remettez sur la tête, qui sont des cheveux de mort. Il faut dire des choses comme ça. Parce que c'est très important pour comprendre que ces cheveux, on peut les organiser autrement. On peut aussi ne pas les mettre. La beauté africaine, elle peut exister aussi sans cela.
Reste avec nous. Reste avec nous, Yves Ekwe, à Maison. Nous avons des auditeurs qui souhaitent réagir au thème du jour. Alors tout d'abord, Maman Gauze, bonjour.
Bonjour jeune homme, vraiment je suis Maman Gauze.
Bonjour madame.
Je viens à peine de rentrer du petit boulot là, j'ai mon frère qui est passé là, il a parlé de la corruption.
Oui.
Alors moi aussi je vais enchaîner dans le même chemin.
Je vous écoute.
C'est-à-dire qu'il a dit tout est corrompu en Afrique. C'est vrai, tout est corrompu en Afrique. Même pour aller faire des bébés pour augmenter la population de l'Afrique, c'est-à-dire il faut payer l'argent dans la maternité. La maternité est corrompue.
Hein? Ah, c'est votre avis, hein, c'est votre avis.
Allô?
Oui.
Je dis que même pour aller faire des bébés à la maternité, il faut payer. Comment on va payer? Il y a des pauvres qui peuvent faire des enfants. Alors on dit de payer. J'ai ma soeur qui est partie accoucher au Cameroun, des jumeaux. Les jumeaux sont morts. Elle-même, elle est morte. Tout cela, c'est la corruption, jeune homme. C'est ce que je veux dénoncer.
Merci beaucoup pour votre intervention, voilà. Maman Gauze. Hein, vos propos n'engagent que vous. Nous avons en ligne Mohamed. Mohamed, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, on vous écoute. Vous souhaitez parler de la croissance au Mali, notamment.
Effectivement, j'ai entendu que la croissance malienne a augmenté de 5 ou je ne sais pas 6%. Ma question est de savoir... Ça sert à quoi d'avoir une croissance de 6%, de 10% si le peuple blanc ne voit pas la couleur? Qu'on aille dire ça au peuple malien que la croissance a augmenté. Vous allez voir quelle sera la réaction. Donc, cette politique qui consiste à nous dire, allez-y, faites des réformes qu'on a fait des années et des années, ça n'a pas marché, c'est de nous dire, allez droit dans le mur. Ma question est de savoir, pourquoi nous imposer ces genres de réformes qu'on n'ose pas imposer chez soi. C'est ça ma question.
Nous allons poser la question à notre invité. Merci beaucoup Mohamed pour votre intervention et votre question. Nous avons en ligne Farouk, bonjour. Vous souhaitez intervenir parler du sujet du jour, à savoir la croissance subsaharienne en panne actuellement.
Ah ok, d'accord, non mais c'était juste pour remercier votre invité qui était en ligne tout à l'heure, qui parlait de problèmes de l'Afrique, tout cela, c'était juste pour le remercier, et justement pour dire, c'est des gens comme ça qu'il faut inviter sur Africa Numéro, pour réveiller la conscience de nous Africains, quoi.
Ah, Yves Ekwe et Meizo intervient souvent sur Africa Numéro 1.
Pardon?
Il intervient souvent sur Africa Numéro 1.
Ah voilà, bon, mais en fait, moi aussi de temps en temps, j'appelle mes potes tous les jours. Tout à l'heure, j'ai juste allumé la radio, puis je l'entendais parler, je ne savais pas comment il s'appelait. Et vraiment, son intervention m'a beaucoup plu. C'était juste pour le remercier et lui dire chaque fois de l'encourager à toujours dénoncer ses problèmes en Afrique. Ça peut réveiller nos consciences.
Merci beaucoup Farouk pour votre intervention. On retrouve notre invité Yves Ekwe à Meizo. Alors nous avons entendu les interventions des auditeurs et beaucoup reviennent sur ce qui avait déjà été invoqué, à savoir que il y a de la croissance dans certains pays, mais cela ne profite pas à la population.
Alors il faut profiter pour faire un peu de pédagogie, que tout le monde se mette bien dans la tête. Il n'y a pas d'économie sans croissance économique. Vous ne pouvez pas. Quand on dit croissance économique, de quoi parlons-nous? Il s'agit de créer de la richesse. Si vous ne créez pas de la richesse, vous ne pouvez pas augmenter et diviser. C'est pas la peine de faire 5 enfants si vous n'avez pas les moyens de leur donner à manger, quelles que soient les religions dans lesquelles vous êtes. Donc la croissance économique, fondamentalement, doit être là. Donc ce n'est pas le problème de la croissance économique. Il faut bien enlever ça de la tête. Le problème est que cette croissance existe, elle n'est pas distribuée. Il faut savoir qui sont ces gens qui prennent cette richesse et ne le redistribuent pas. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est c'est le premier point pour clarifier cette histoire de croissance économique. Donc, ceux qui ne veulent pas entendre parler de croissance économique, ils ont tort. La croissance, elle est nécessaire. Si vous n'augmentez pas le gâteau, vous ne pouvez pas diviser par le nombre de personnes. Qu'on soit très clair dessus. Deuxième élément très important. Je remercie au passage M. Farouk. Et donc, si c'est, il peut aller sur les différents sites. On met aussi des papiers. Je reviens à Mme Bose. Très, très important ce qu'elle dit. Vous dites que ça l'engage elle-même. Mais écoutez, je connais beaucoup d'exemples de ce qu'elle dit. Ce n'est pas qu'au Cameroun. C'est au Nigeria. Vous ne pouvez pas avoir un enfant, un accouchement sans payer. Et vous n'allez pas dans une administration sans donner un petit quelque chose. Ce petit quelque chose, quand vous les accumulez, ça fait beaucoup d'argent. Vous ne pouvez pas circuler dans beaucoup de routes africaines sans payer 1000 francs ici, 2000 francs, 3000 francs ici. Vous ne pouvez pas passer la douane sans glisser quelque chose alors que vos papiers sont en règle, alors que vous êtes dans la communauté régionale, que ce soit en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, etc. Donc cette corruption de petit niveau, comme la corruption de grand niveau, elle existe. Il faut donc le toucher. Qui c'est qui est en charge de ces corruptions-là? Il faut qu'on mette les doigts dessus. C'est un problème culturel. Est-ce que quand on donne l'argent à quelqu'un, il le prend ou il ne le prend pas? C'est ça. On dit que l'argent n'a pas d'odeur. Mais en Afrique, je ne sais pas quelle odeur ça a, mais en tout cas, les gens le prennent bien et mangent bien avec. Et ceux qui mangent, ils se taisent. Donc, l'impunité qui est alliée à la croissance et qui fait en sorte que les gens développe la corruption, fait que justement il n'y a pas de développement. Alors revenons en arrière. Si un médecin doit prendre de l'argent pour vous soigner et que vous n'avez pas d'argent, vous mourrez. Si quelqu'un le fait dans un domaine économique, ben vous n'avez pas à pouvoir acheter. Ça veut dire quoi? Qu'on va développer les violences, qu'on va développer des gens qui vont partir dans des domaines qui coûtent aussi de l'argent, qui sont l'insécurité. Tous ces éléments vont ensemble. Mais il ne faut en fait ne pas faire l'amalgame. Il y a un vrai problème qu'a posé Mme Bose. Le service public africain ne marche pas. Qu'on soit clair dessus. L'État prend des taxes. Peut-être c'est pas beaucoup.
Tous les pays sont concernés quand vous dites ça.
Pardon ?
Tous les pays sont concernés.
Tous les pays sont concernés. Il y en a qui font mieux que d'autres. Mais on n'a pas le temps pour aller dans le détail. Tous les pays africains ont un service public qui marche moins bien qu'ailleurs. Sincèrement. Quand on compare l'Amérique latine, quand on compare en Asie. Sincèrement, on peut faire beaucoup mieux. Deux, la plupart de ces gens, allez dans un hôpital africain, allez dans les services publics, on ne vous sourit plus. Ce n'est plus l'Afrique dans le temps. Les gens vous font la gueule, ils veulent pas vous parler, ils vous font attendre. Pourquoi on doit attendre? Pourquoi on doit attendre? Et vous savez le temps que ça coûte à des personnes qui vont vendre le piment au marché, qui doit aller soigner son enfant et revenir à la maison faire la cuisine? Ce n'est pas normal. Ces gens-là, on doit les enlever. Il faut pouvoir enlever ces gens du service public et mettre des gens qui sourient d'abord à leurs frères et sœurs, et demain faut rendre le service. S'ils ne rendent pas leur service, mettez-les dehors. Qu'on soit clair là-dessus, parce que tout cela fait partie d'une économie qui fonctionne et qui est donc efficace. Qu'est-ce que je veux conclure? C'est que les économies africaines, nos administrations, notre service public n'est pas efficace. C'est ça que Mme Bose a posé comme problème. Ce n'est pas normal que vous devez accoucher un enfant et que ce ne soit pas efficace. Et qu'on doit en plus vous demander de l'argent. Si vous n'avez pas l'argent, vous faites quoi? Vous allez mourir. Pour 1000 francs CFA, pour avoir juste un peu de sang, des gens meurent tout simplement parce que le médecin demande d'aller chercher le sang. Je parle même pas des petits médicaments. Et encore, ces médicaments, faut qu'ils soient sérieux. Parce qu'il y a des gens qui font de l'inoculation. On l'a su pour l'histoire de l'Ebola. Donc, vous savez, il y a des problèmes de fond. Si maintenant, ceux qui dirigent, le ministre de la Santé ou d'autres, font l'effort, ou refusent plutôt de faire l'effort, de dire la vérité, que tel médicament est bien, n'est pas bien, et qu'on peut prendre des médicaments locaux à partir de nos plantes, alors il y a un vrai problème de culture. Et je reviens à cela. Nous devons prendre conscience qu'on s'organise, et on n'est pas organisé pour cela. Et c'est ça qui permet. Et là, on va peut-être même arriver au problème de fond. Ceux qui sont en Europe, la diaspora africaine en général, il faudrait aussi qu'elle se réveille. Mais bon, vous savez, il y a trois diasporas, hein, ceux qui s'alignent sur le pouvoir et qui continuent à manger, et à ceux qui disent, on s'en fout, ils ont changé de nationalité, et donc ils sont silencieux, ils envoient bien sûr de l'argent à leur famille, mais vous savez, c'est pour le court terme. Et puis il y a le troisième qui essaie de faire quelque chose, mais vous savez, ils sont souvent pas organisés, ils ne veulent pas cotiser, c'est la vérité des Africains aussi, on veut pas cotiser. Quand on cotise, quelqu'un a volé la caisse, et pour aller beaucoup plus loin, une fois qu'on a cotisé, qu'est-ce qu'on fait avec? Du court terme ou du long terme? Non, on choisit l'enterrement, on va à des baptêmes, on va danser, on est toujours là où c'est improductif.
Merci, restez avec nous Yves Ekwe Amezo, d'autres auditeurs souhaitent réagir et vous poser des questions. Tout d'abord Douga, bonjour.
Oui allô, bonjour. Oui, merci de m'avoir passé à l'antenne. En fait, votre économiste aujourd'hui, je ne sais pas comment il s'appelle exactement.
Yves Ekwe Amezo.
Oui, c'est la première fois que je vois un économiste aussi compétent, un Africain compétent comme ça, c'est la première fois que j'entends et j'entends quoi. En fait, moi j'ai une question à lui poser par rapport à tout ça. J'aimerais savoir, en fait, par rapport au développement d'Afrique, de l'Afrique, tout ça, là, qu'est-ce qui ne va pas, en fait, qu'est-ce qui freine les développements exactement? Parce qu'on doit faire quoi, en fait? On sait, par exemple, que le riz, ça vient pas d'Afrique, par exemple, c'est ailleurs, tout ça, ils exportent, ça plombe l'économie. Après, il y a beaucoup, on n'arrive pas à développer ces trucs-là, en fait, chez nous. Donc, on consomme ça, mais ça nous plombe. Et après, la diaspora, comme d'autres questions encore par rapport à la diaspora.
Oui,
la diaspora, par exemple, moi, je suis d'origine malienne, j'ai investi au Mali, mais il y a que des escrocs là-bas. Quand on leur donne un truc pour développer, par exemple, au niveau du transport, on achète des camions, on envoie là-bas pour faire le transport, la construction, tout ça. On se retrouve à essayer, l'argent s'est fait, voilà, quand ils bouffent l'argent. Après, il n'y a plus rien. Quand on dit, voilà, la justice, ça ne fonctionne pas, il n'y a rien du tout. Et voilà quoi, c'est ça. Je voulais poser la question par rapport au développement de l'Afrique. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Merci Douga. Nous allons poser la question à notre invité. Nous avons en ligne Chimène. Bonjour.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
Oui, bonjour mon cher compatriote, monsieur Yves Koué. J'apprécie souvent ses analyses. Il est vraiment brillant. Moi, ce qui me choque concernant le développement de l'Afrique, même les pauvres femmes commerçantes là, j'étais à Lomé en 2014, en été, toutes les femmes togolaises prennent vol pour aller en Chine. Ils ramènent des trucs, des chaussures, des pagnes. Je me suis dit, on peut fabriquer tout chez nous. Alors, quand tout le monde a envie d'y aller, maintenant, le marché est saturé, qui va acheter pour qui? Ce qui bloque l'économie. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, oui.
Ce qui bloque l'économie. On se pose souvent la question, le problème de l'Afrique, là, on ne sait pas comment s'en sortir même. C'est vrai, le problème de la corruption. Nos dirigeants sont corrompus, les ministres sont corrompus. Mais ça va de mal en pire. Les économistes comme M. Koué, moi, je l'apprécie beaucoup. Il a déjà fait une analyse concernant le franc CFA. Non, vraiment, big up, hein, monsieur. Je vous adore. J'apprécie son analyse. C'est mon compatriote. Je vous dis bon après-midi.
Merci pour votre...
Écoutez-moi, au sujet des femmes là, quelle sera la solution? Toutes les femmes, elles prennent le vol. Chine, Hong Kong, Chine. Alors que le marché est inondé des produits chinois. La capitale est devenue chinoiserie. Alors que ça fait 3 jours de cela, mon fils voulait me montrer quelque chose sur le site. J'ai pas eu le courage de regarder. Paraît-il que des boîtes de conserve... les cornes de feu, il y a des chairs humaines qui sont dedans. Je ne sais pas si les gens ont vu ça sur les réseaux, mais ça choque.
Merci beaucoup, Chimène, pour votre intervention. Nous avons en ligne David. Bonjour.
Oui, bonjour. Écoutez, je vais peut-être décevoir la dame. Je pense que les analyses de M. Ekoué sont... Il y a une justesse dans ses analyses, mais en même temps aussi, je pense qu'il est parfois emporté par sa fougue. Je peux comprendre qu'il est... des problèmes. Bon, le rôle d'un intellectuel parfois aussi, c'est de prendre du recul et de voir les choses de manière un peu plus froide. Quand il parle fédératé, des comportements des Africains qui font la fête, qui font, c'est pas. Je crois que les choses ne sont pas aussi simples. Mmh. Le premier problème dont l'Afrique souffre, et je m'inscris totalement en faux à un propos qu'il a tenu, à savoir l'histoire démographique, en disant qu'on devait être certain de pouvoir élever 5 enfants quand on décide de le faire. C'est pas comme ça qu'on peut voir les choses. L'Asie, le premier poids de l'Asie, c'est sa population. Or, en matière de population, l'Afrique souffre d'un déficit humain qui est énormissime. Je crois que les Africains ne s'en rendent pas compte. C'est vraiment l'un de nos problèmes. Mmh. Et je crois qu'il faut mettre l'accent là-dessus, parce que quand vous prenez la zone d'Afrique centrale, c'est quasiment, si je prends simplement les États de la CEMAC, en termes de démographie, c'est quasiment une ville thaïlandaise, c'est même pas une ville chinoise. En y mettant même le Grand Congo, on arrive à peu près à 100-150 millions de personnes, ce qui est infime. Quand on tient compte un pays comme l'Indonésie, qui a 4,10 millions avec une superficie beaucoup plus, 100 millions même, je dirais. Donc, pour moi, c'est déjà ça. Et en même temps, je dirais aussi qu'il faudrait peut-être mettre en place sur Africa numéro 1 des émissions économiques. Parce que j'en ai marre d'écouter des hommes politiques qui viennent tous les jours débattre. Moi, franchement, je ne crois pas à la démocratie en Afrique. Ce n'est pas parce qu'on a une terre particulière. Je crois qu'il faut mettre l'accent sur l'économie. Et
mais des économistes interviennent sur l'antenne d'Africa numéro 1, dont M. Ekoué Amezo, mais il y en a d'autres aussi. Hein.
Oui, j'aimerais bien vraiment qu'on fasse des émissions qui donnent quand même quelques leviers sur des secteurs à investir, des choses comme ça. Et c'est ce sur quoi on doit travailler. La dame se plaignait effectivement d'aller en Chine. La Chine aujourd'hui est devenue... En gros, l'industrie mondiale, il n'y a pas que les Africains qui vont se fournir en Chine. En France, actuellement, la quasi-totalité des produits électroniques viennent de ce coin. Donc, à la limite, nous qui ne fabriquons rien, on est obligés, malheureusement, de se tourner vers ces pays qui nous offrent quand même des produits à bon marché.
Merci beaucoup.
Oui.
Merci beaucoup, David.
Il faut mettre en avant des gens comme Dongoté qui ont mis des cimenteries, qui ont moins mon pays sur le Cameroun. Aujourd'hui, nous avons 5 cimenteries. C'est qui n'avait jamais été pensé. Et notamment celle d'un Africain aujourd'hui qui pourvoit des emplois. Donc, je pense qu'il faut, pour moi, il faut mettre l'accent là-dessus sur deux points. Pour moi, le problème démographique. Il faut encourager les Africains à faire des enfants, contrairement à l'idée reçue. L'Afrique est vide. L'Afrique est vide. Un pays comme la Centrafrique aujourd'hui, une majeure partie de ces problèmes vient d'un problème démographique.
Merci beaucoup, David. Nous allons retrouver notre invité, Yves Ekwe Ameizo, qui va certainement vous répondre.
Oui, oui, absolument. J'ai tous les points. Je vais commencer par David. Je n'ai jamais dit qu'il ne faut pas faire des enfants en tant que tel. Je vous ai dit de manière très précise, quand vous avez un gâteau et qu'autour du gâteau, vous avez 3 enfants et que ce gâteau ne grossit pas et que vous en faites encore 3 autres de plus, c'est-à-dire 6 enfants, vous serez obligé de diviser le gâteau par 6 et non pas par 3. Si vous en faites 10, puisque vous voulez faire beaucoup d'enfants, vous divisez par 10. Si vous faites 50 enfants, parce qu'il y a des Africains qui font 50 enfants, même des chefs d'État, je vous le rappelle, vous divisez par 50. Je vous garantis que si vous divisez votre gâteau par 50, sur les 50 enfants, la moitié n'ira pas à l'école. Une moitié se deviendra Boko Haram, donc la violence, et une moitié peut-être vous battra vous-même le père. C'est ça dont il s'agit. Il ne s'agit pas de dire aux Africains de ne pas avoir des enfants. Il s'agit de dire aux Africains d'avoir des enfants dès lors qu'ils ont les moyens.
Très rapidement, très rapidement. Monsieur Ekwe Ameizo, très rapidement, parce que nous arrivons presque à la fin de cette émission, sur d'accord, deux points des auditeurs, les produits chinois et la diaspora.
Sur la Chine, je vais être très rapide. Il y a une solution. Madame ne doit pas croire qu'il n'y a pas de solution. On avait demandé aux femmes, les nanabins justement de l'époque, de se mettre ensemble, de mettre tout l'argent qu'ils ont ensemble pour faire une, deux, trois usines de textiles au Togo, au lieu d'aller chercher les wax et tous les éléments en Hollande à l'époque, et en Autriche et puis maintenant en Chine. C'est de ça qu'il s'agit. On ne veut pas s'organiser pour se mettre ensemble, pour faire l'usine. Si on avait fait les usines, on aurait les marques. On aurait aujourd'hui, on bloquerait. Il y a même des gens qui font les dessins aujourd'hui à Lomé. Et ces dessins sont copiés immédiatement en Chine.
Merci beaucoup, Yves Ekwe Ameizo. Je suis désolé, nous devons terminer cette émission. Merci beaucoup d'avoir participé à ce JDA. Merci aux auditeurs pour vos appels. Merci à Maxime pour la réalisation. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition du journal des auditeurs sur Africa numéro 1.